Je voudrais ce soir lire d'une prédication de Frère Branham et pour nous donner le fondement pour ces jours. Mais avant cela, je voudrais lire deux écritures des Saintes Écritures. Le premier de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Ici, je lis le verset 16. Matthieu 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent à lui en allemand. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ensuite, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 31. L'Évangile, Jean, chapitre 1, verset 31. Oui, peut-être à partir du verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et s'arrêter sur lui. Le verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dans la parole d'introduction, nous l'avons lu dans Matthieu, dans Jean chapitre 20. Et là, disait Thomas, Jean chapitre 20, si ce n'est que je mets ma main sur son côté, sinon je ne crois pas. Il ne s'agissait pas seulement qu'un disciple du Seigneur doutait, mais il s'agissait qu'un autre témoignage dans les Saintes Écritures puisse être apporté d'une expérience que quelqu'un faisait qui avait vu le Seigneur après sa résurrection. Toutes choses que Dieu a faites et a permises, pour cette chose, nous sommes très reconnaissants. Sinon, nous n'aurions pas eu ce témoignage merveilleux, car ce n'aurait pas pu être écrit avec ce témoignage merveilleux. Avec cela, je vais parler du témoignage de la confession de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Son doute a servi à quelque chose. Mais bien aimé, celui qui doute avec sincérité, il sera même encore récompensé à la fin. Mais nous devons aussi pouvoir croire aussi à ce que nous avons lu ici. Je voudrais seulement dire la chose suivante. Jean connaissait pas le Seigneur. C'est son témoignage personnel. Je ne le connaissais pas, il a pu le dire, Jean-Baptiste donc. Mais il pouvait dire, celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit. Dieu, dans tous les temps, a parlé. Et tous ceux qui ont écouté sa parole rendaient témoignage de ce qu'il leur avait dit. et de ce qu'il disait. À chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, il lui dit ce qui appartient à sa commission, à la commission, au mandat. Jamais Dieu nous laisse dans l'incertitude sans qu'on sache ce qu'on doit faire. Il dit, il relit le verset 33 de Jean 1. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, Jean 1, verset 33, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, tu verras, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Comme c'est merveilleux, comment est-ce que ces deux écritures bibliques se complètent de Matthieu 3, le verset 16, et Jean 1, verset 31, jusqu'au verset 33. Ici, dans Matthieu 3, au verset 16, il est écrit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrèrent à lui. Et lui, Jean, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc s'ouvrir à lui, les cieux s'ouvrir à lui. Et Jean disait, descendu et resté sur lui. Beaucoup ont eu une expérience, mais l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester sur eux parce qu'il a été attristé, il a dû se retirer. Il ne pouvait pas rester sur eux. Ce qui est le plus important, c'est que ce ne soit pas seulement que nous fassions l'expérience, que nous fassions cette expérience, mais ce qui est le plus important, c'est que l'Esprit de Dieu puisse rester sur nous, puisse se reposer sur nous et nous oindre et nous sceller et nous conduire dans toutes les vérités de la parole de Dieu. C'est ce qui est important. C'est ce qui est le plus important. Je voudrais... de cette prédication de Frère Branham qui n'a pas encore été éditée, mais qui sûrement, quelque part en octobre et en novembre, sera éditée. Je voudrais lire plusieurs citations parce que elles seront une aide pour nous. À de manière nouvelle, ordonner notre disposition à l'expérience de la Pentecôte. Celui qui veut faire une expérience biblique avec Dieu doit ordonner ses pensées, sa disposition et sa foi avant l'expérience de manière biblique. Il doit laisser ordonner ses pensées de manière biblique avant l'expérience. Il n'y a pas une autre voie pour ça. Dieu ne va jamais pouvoir bénir si nous ne croyons pas comme le dit les Écritures. Nous devons d'abord nous soumettre au témoignage des Écritures et avoir un amen sincère de tout son cœur à sa parole. Que Dieu puisse me l'accorder, que Dieu puisse nous l'accorder à tous dans ces jours. Un amen sincère de tout son cœur, de tout notre cœur, à chaque parole de Dieu, et que nous puissions dans la foi les repasser dans notre cœur. Dans cet exposé, dans cette prédication, Frère Branham tire la comparaison d'abord entre Balaam et Moïse, entre la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Il apporte plusieurs comparaisons pour nous montrer où est-ce que la volonté parfaite de Dieu peut être faite, c'est-à-dire seulement là où le message prophétique de Dieu réellement sous et donc parmi le peuple de Dieu a été apporté. Pas là où subitement un prophète apparaît qui dans son cœur désire un salaire de 10 heures de bonne aventure, mais là où son... Oui, là où le Seigneur a parlé, où il a pu accomplir ses promesses, ses promesses, là où son peuple avait été rassemblé sous le sang du sacrifice et avait expérimenté l'exode et marchait sur le chemin de Dieu, sur la voie de Dieu. Et je pense que dans ces jours, sans efforts, nous pouvons tirer une comparaison réelle. Ici, il est écrit, citation, « Nous voulons maintenant donner une vie d'ensemble courte, une courte vie d'ensemble. » Nous savons que Balaam était un prophète. En ce temps, Balak était roi sur les Moabites. Il n'était pas des incroyants, car Moab servait le même Dieu comme Israël. Moab, dont sont issues les nations, était un fils de Lot qu'il l'avait eu avec sa fille. C'est pour cette raison qu'il servait le même Dieu. Soyez attentifs. Ils apportaient les mêmes sacrifices. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'adoration et d'apporter un sacrifice, mais il s'agit que, mais il s'agit plutôt que Dieu puisse révéler sa volonté à son peuple et que son peuple soit prêt dans la foi à accomplir cette volonté divine. Ensuite, il est dit, citation, cela est une image de la rencontre entre le terrestre et le spirituel. Quand le naturel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours une collision parce qu'ils se heurtent de front. Israël, je voudrais ici représenter Israël comme l'église spirituelle. Et Moab, en tant que l'église naturelle. Ce que nous appelons l'église naturelle. Ici, nous avons le fondement. Frère Branham disait que de chaque réveil sortent des jumeaux. Ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Ceux qui reçoivent la parole du Seigneur par révélation divine et les autres qui la reçoivent de leur propre compréhension. Dans chaque âge, il y a eu des appelés et des élus. Il y a toujours deux groupes. Bon, tous peuvent se dire spirituels. Je n'ai encore trouvé personne qui se serait pensé charnel pendant qu'il parlait de choses spirituelles. J'ai jamais vu quelqu'un qui se serait pensé charnel. Chacun est spirituel, cela en a en tout cas l'air ou bien l'apparence, et personne n'admettrait avoir des pensées humaines et agir ou réagir dans la chair. Mais nous avons lu que ces deux choses, quand ils se rencontrent, ils entrent en collision. Ils parlent deux sortes de langage. En fait, ils n'ont rien en commun. Donc, nous croyons de tout notre cœur que Dieu oui, nous croyons de tout notre cœur que les élus sont marqués de Dieu en ce qu'ils croient la parole révélée pour le temps sans l'interpréter et sans retrancher ce qui ne leur plaît pas, mais ils croient tout le témoignage des Écritures de tout leur cœur et le reçoivent. Ensuite, les décrits citations. Nous savons tous qu'il y a une Église et que de cette Église, une épouse sort. Nous savons que cela est vrai. C'est là qu'ils se rencontrent, maintenant. Et cela s'est produit lors d'un incident dont je voudrais parler un instant. Dès qu'ils sont entrés en collision, les uns virent ce que faisaient les autres et une grande imitation a suivi. Il y a toujours un original et tout ce qui n'est pas original doit et peut que être une imitation. Moïse avait un appel original, un mandat original, une promesse originale. Il vint au peuple de Dieu avec un message de Dieu pour accomplir les promesses que Dieu avait données à Abraham. Il n'y avait qu'un seul original. Tous les autres étaient des imitations, de l'imitation. Ensuite, il y en a qui ont apparu. Il y a eu toutes sortes de choses. Mais jusqu'à la fin, Dieu ne s'est tenu que par ce qui a été fait en son nom, selon ses paroles, sous sa commission. Sous son ordre, sous son mandat. Tout le reste est tombé à l'eau, est resté en chemin. C'est ainsi que ce sera à la fin des jours. Dieu ne peut pas aller de 100 manières différentes, sur des centaines de voies différentes. Dieu a qu'une seule voie et son Église le suit sur cette voie-là, sur sa voie, la voie divine. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons beaucoup d'imitations. Il y a beaucoup d'imitations qui existent. Si vous le faites, vous êtes constamment en difficulté. Vous ne pouvez pas vivre la vie d'un autre. Vous ne pouvez pas imiter quelque chose. Nous devons être ce que nous sommes. Vous n'avez jamais le droit d'essayer, d'imiter. Si, d'essayer quelque chose, si quelqu'un fait quelque chose, alors vous pensez que vous devriez aussi le faire. Seulement parce que cette personne-là le fait. Non, arrêtez cela. Vous tenez comme individu seul devant Dieu. Nous ne devons jamais essayer de nous imiter les uns les autres. Je pense que ça, c'est une déclaration, un langage clair. Et que personne pense aujourd'hui ici, ou bien dans tout le futur, que ici, de cette prédication, de s'adresser et de tenir une prédication aux gens du temps de Moïse, qui vivaient au temps de Moïse. Non, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agit de nous montrer aujourd'hui de ce temps d'autrefois à quoi ressemble la voix de Dieu parmi son peuple aujourd'hui. Et chacun à qui Dieu fait grâce, il respecte les décisions de Dieu. Sinon avant cela, il n'a même pas la possibilité de marcher sur les voies de Dieu s'il ne respecte pas les décisions de Dieu. Ensuite, citation. Vous pouvez être très sincère et malgré tout être dans l'erreur. Vous pouvez être dans l'erreur. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, verset 25. D'être sincère seulement ne sauvera personne. Seulement en étant sincère. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens sont partout sincères? Et j'ose même dire, tel que frère Branham l'a mentionné, le mentionnait, si une jeune dame va dans un monastère, alors elle ne va pas pour profiter de sa vie, mais avec un cœur sincère, elle va pour servir Dieu. Mais la sincérité de son cœur ne sert à rien si ce n'est pas la voie de Dieu sur laquelle nous marchons. Si ce n'est pas la voie de Dieu que nous suivons, Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup sont sincères aujourd'hui? Qu'on dit que Jésus avait prié pour l'unité, pour l'union, et nous devons être un. Et il cite Jean 17. Et ils sont sincères. Ils sont tellement sincères que l'heure viendra, arrivera, où un frère qui aura aidé l'autre à mourir croira rendre un culte à Dieu. Et si nous regardons en arrière, alors nous pouvons voir clairement le développement spirituel. Dans le premier feu du réveil, Dieu sépare son peuple. Et ensuite, le feu diminue. Et tout le réveil se refroidit et la paresse s'installe. Et ils s'orientent sur les choses qu'ils avaient laissées derrière. Nous ne voulons pas nous approfondir longtemps dans cette pensée. Ça, on va le faire dans une brochure. Ici, il est dit, citation, « Je crois que cela, Abel l'avait au commencement. » Une révélation spirituelle que ce n'était pas le fruit des champs ou alors l'œuvre de nos mains, etc. C'était le sang. Il a apporté à Dieu un sacrifice agréable, plus agréable que celui de Caïn. La même chose, nous le trouvons avec Abraham et Lot. En raison d'un choix, Lot se retira. Quand le temps vint où il y eut une collision entre l'église spirituelle et l'église naturelle, à cause des bergers, ils devaient se séparer. Quand cela arrive, il y a de la jalousie qui monte. Ici, nous avons un contexte très particulier. Ce n'était pas Abraham et Lot d'abord, en premier plan, mais c'était les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et c'est là que ça a commencé. À tel point que Abraham et Lot ont dû se séparer. Ce n'est pas le peuple de Dieu, mais ce sont ceux qui veulent être bergers sur le peuple de Dieu. Et ces bergers pour qui, et c'est la laine qui est plus importante pour eux que les brebis elles-mêmes. Et c'est là le grand problème. Mais Dieu a encore des hommes, des bergers que lui-même il a établis dans l'église. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants. Pas des bergers qui le sont devenus à cause d'une catastrophe qui a eu lieu, mais des bergers qui en toutes circonstances ont fait leur preuve et qui résistent avec l'aide de Dieu malgré tous les vents. Ça continue encore. La jalousie vient toujours là où cela se passe. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit, c'est le point. C'était comme ça au commencement, entre Caïn, avec Caïn plutôt, et cela ira comme ça jusqu'à la fin. La jalousie. C'est pas quelqu'un qui pense en lui-même. Ah, ce frère fait des réunions. Oui, mais je peux aussi en faire. Et déjà, des comparaisons terrestres humaines sont tirées et on commence alors à faire un programme propre dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, beaucoup ont bâti leur propre royaume. Et cela n'a pas le droit d'être et n'a pas le droit d'exister. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit « Je bâtirai mon Église » et les portes du séjour des morts, ou bien alors de l'enfer, ne prendront pas contre elle. Et dans son Église, c'est lui-même qui a établi les ministères et les responsabilités, pas des gens qui un jour pensent avoir un ministère, mais des gens que Dieu lui-même a établis, les ayant destinés à cette tâche. Quand Dieu vit la révélation que Abel avait, ce qu'il fit par révélation et le sacrifice qu'il a apporté, Caïn a été jaloux d'Abel. C'est là que le premier meurtre a été commis. Quand est-ce que le meurtre? Un meurtre, oui. Et tout ce qui appartient par les mâles et tout ça. Quand est-ce que cela est commis? Quand une jalousie vient sur l'homme, sur les hommes, qui ensuite les ronge, oui, les ronge, et ils ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Au lieu que nous puissions nous réjouir quand Dieu bénit, car nous savons qu'aucun homme aucun homme est capable de se bénir lui-même, de se procurer en dehors de Dieu. Seul, la bénédiction vient de Dieu. Toute personne qui appartient au corps du Seigneur se réjouit quand un membre au corps du Seigneur, un membre du corps du Seigneur est utilisé par Dieu, béni par Dieu et sert à être une bénédiction pour les autres. Et comme il y a longtemps, il y a des années passées, je le disais, si nous voulons que Dieu nous bénisse, alors nous devons de tout notre cœur, sincèrement, pouvoir nous bénir, nous réjouir quand nous entendons et voyons que Dieu a déjà béni un autre. Alors notre heure arrivera aussi où nous serons bénis de Dieu, si nous avons pu nous réjouir de la bénédiction des autres. Ensuite, déclaration. Nous savons que la jalousie avait apparu parmi les bergers de Lot et d'Abraham d'une manière qu'ils ont dû se séparer. Et nous constatons que Moïse et Corée aussi avaient une collision. Jésus et Judas ont eu aussi une collision. C'était toujours la même chose qui se répétait, tel qu'aujourd'hui encore cela se répète. Quand l'Église naturelle et l'Église spirituelle se rencontrent, il y a toujours une collision. L'Église naturelle essaie toujours de se rendre semblable à l'Église spirituelle par une imitation charnelle. Mais de la même manière, comme avec Ésaü et Jacob, cela ne lui réussira pas. Et ça aussi, c'est une déclaration, une pensée très importante. Que pouvait faire Jésus pour ce que Judas lui avait fait? Que pouvait faire Moïse pour ce que Corée lui avait fait? Moïse a dû suivre son chemin déterminé par Dieu avec le peuple de Dieu. Et ce n'était pas du tout simple. Pas du tout facile. Vous savez, avec James et Zambres, Moïse devait faire des miracles et jeter la verge au sol. Et déjà, il y a deux hommes qui apparaissent et chacun jette aussi sa verge. Et voici que les deux verges deviennent aussi des serpents. Et un serpent. Et le peuple a été déchiré ici et là. Oui, qui a raison? Qui est envoyé de Dieu? L'un, les deux ou bien les trois? Toujours de nouveau, il y a eu des épreuves qui ont existé. Mais le peuple de Dieu a surmonté les épreuves. Est-ce que tous ne savaient pas que Jeannès et Jambrès n'étaient même pas présents quand Dieu avait fait le commencement, alors que ça avait commencé, alors que Dieu faisait le commencement de l'histoire du salut d'Israël? On doit toujours revenir à l'originel, au commencement, pour avoir la liaison à ce qui s'est passé depuis le commencement. Pour avoir cette liaison et continuer, nous ne pouvons pas comme ça, après plusieurs années, commencer à monter, commencer comme ça quelque part au milieu de l'œuvre. Non, on doit revenir à son commencement et savoir comment elle a commencé. Et ici, il nous est dit, c'était toujours la même chose, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Imitation naturelle, et ils font ce que doivent faire ceux qui sont envoyés par Dieu. Et alors cela commence. Alors, le peuple est séparé, est divisé. Et si aujourd'hui je pense, et si aujourd'hui en ce jour de la Pentecôte, ou bien après la Pentecôte, ouvertement, très ouvertement, en cet endroit, je peux exprimer quelques paroles. Imaginez cela. Comment est-ce que ça a commencé? Combien ont apparu avec le message, sont venus avec le message et avec la parole de Dieu et dès le commencement? Je veux parler de depuis le commencement. Combien? Oui. Et aujourd'hui, il y a des divisions partout et les gens ne savent pas où ils sont et ce qui se passe. Et ce qui s'est passé. Mais bien aimé, Dieu dans ces jours veut nous donner une possibilité de prendre notre décision selon sa parole, en accord avec sa parole, et de rester à cette décision pour que, qui est biblique, pour que nous puissions atteindre le but. Rester à cette décision qui est selon les Écritures. Donc, plus de division, mais de suivre un chemin clair, le chemin, la voie claire de notre Dieu. Déclaration encore. Dieu a appelé son Église. Il lui a donné un nom. Et il a séparé. À chaque fois, il se révèle à elle dans les différents âges dans lesquels elle vit. Pour que la prédestination se fasse selon son propre choix. Est-ce que vous remarquez cela? Dieu sait ce qui est dans votre cœur. Il sait ce que vous pensez. Ça n'a pas d'importance ce que nous disons. Lui, il connaît nos pensées. Que nos paroles et ce que nous pensons dans notre cœur soient en harmonie, en accord, soient la même chose. Une fois, le frère Branham disait, combien de fois des frères m'ont dit, je t'aime de tout mon cœur. Et l'homme de Dieu, avec le don du discernement des pensées des cœurs, disait, je savais qu'ils ne le font pas. Je savais que ce n'était pas vrai. Mais c'était des paroles qui m'ont exprimé. Mais bien aimé, Dieu ne veut pas écouter nos paroles. Il veut nos actions. Nos actions. Il veut notre cœur. Et les deux doivent être en accord, action et cœur. Il y a toujours eu cela a toujours causé des difficultés depuis que Caïn avait tué Abel, le naturel a toujours essayé de détruire l'influence du spirituel. La même chose, nous le trouvons encore aujourd'hui, de la même manière, exactement la même chose. C'est une preuve que cela vient de Satan, car c'est la jalousie et c'est une imitation de la vérité. Je peux avec une bonne conscience dire, même si ici je prononce les choses ouvertement, je n'ai jamais critiqué quelqu'un qui traduit les prédications de Frère Branham. Je n'ai jamais corrigé personne ou bien voulu améliorer aucun de ces gens qui le font. Mais tous, du premier jusqu'au dernier, tous ont essayé de le faire en ma personne, envers moi. Et il y en a plusieurs qui sont ici qui peuvent se permettre de dire quelque chose, qui sont là depuis longtemps. Et j'ai une belle comparaison sur mon bureau que le frère Pézal m'a envoyé. Mais bien aimé, ici, il est parlé de ce qui se passe entre le spirituel et le naturel, et les uns essayent de détruire l'influence des autres. Jamais quelqu'un qui est spirituel, qui a reçu la grâce de Dieu, jamais, dans le moindre des choses, il ne dira quelque chose, il dira rien de négatif sur quelqu'un. Jamais. Ou bien de nuisible. Si Paul, et ça je le dis avec esprit maintenant, si Paul écrit en se laissant emporter et dire, regardez les chiens, regardez les mauvais ouvriers. Alors ici, s'il n'a pas laissé sa colère s'exprimer, mais c'est par le souci de son cœur, du mandat divin qu'il avait reçu, les soucis à cause de l'Église du Dieu vivant, à cause du mandat qu'il avait. C'est ça qui l'a poussé à écrire de cette manière. Mais cela, on ne doit jamais parler de cette manière. On ne doit jamais exprimer de telles choses. C'est ainsi que dans cette citation, il est écrit ici que Dieu ne va jamais changer ses pensées sur ce qu'il a dit et que il va toujours laisser ce qu'il a dit être vrai. Ce que Dieu a prononcé une fois, cela reste vrai pour toujours. Et là, on peut s'abandonner à cela. Et nous en sommes reconnaissants. Nous y sommes reconnaissants. Imaginez-vous, Dieu aurait dit aujourd'hui et demain aurait dit quelque chose. Et demain, il dirait autre chose. Il changerait ses pensées sur ce qu'il a dit. Où est-ce que notre foi pourrait se reposer? Alors, si Dieu lui-même n'était pas stable, non. Notre Dieu est véritable et digne de confiance et de foi. Et toutes ces paroles sont oui et sont amen. Et nous pouvons encore aujourd'hui nous abandonner à elle et lui faire confiance, lui prendre au mot. Et nous lui en sommes très reconnaissants de tout notre cœur pour cela. Maintenant arrive. Et là, nous devons tous nous examiner. Mais il y a aussi une volonté permise. Et c'est là que continue la difficulté. Oui, si nous faisons quelque chose dans la volonté permise de Dieu, il le permettra. Et même si nous agissons dans sa volonté permise, bien que ce ne soit pas juste, il laissera toujours sa volonté permise servir à glorifier sa volonté parfaite. Avons-nous compris cela? même si des milliers de personnes sur terre font la volonté permise de Dieu, le Seigneur, lui, il conduira son Église épouse dans sa volonté parfaite et elle atteindra le but sans préjudice de toute volonté permise de Dieu. Et rien ne la nuira et elle atteindra le but. C'est pas possible autrement. À un endroit, frère Branham a dit, un faux dollar montre seulement qu'il y a un billet de dollar original. Et c'est ainsi qu'il n'y a qu'un seul original et tout le reste, toutes les autres choses, ce sont des imitations. Mais même la volonté permise de Dieu va devoir servir à sa gloire, pour que sa volonté parfaite soit faite. Si nous supposons que nous-mêmes aurions été dans la volonté permise de Dieu, alors le Dieu Tout-Puissant lui-même veillera dans sa grâce et dans sa miséricorde à ce que son peuple puisse être conduit hors de sa volonté permise dans sa volonté parfaite. Car c'est seulement dans la volonté parfaite de Dieu, que nous atteindrons le but. Donc, si nous avons reçu la grâce de Dieu, et ça, je ne le dis pas avec légèreté, alors nous pourrons même, dans toute la plénitude de la foi, être quand Dieu, si Dieu nous avait laissé aller dans sa volonté permise, alors lui-même, il fera en sorte, il prendra soin à ce que nous puissions revenir dans sa volonté parfaite, entrer dans sa volonté parfaite. Il n'y a encore aucun homme qui peut être aussi orgueilleux jusqu'à même s'attribuer l'infaillibilité, prétendre avoir fait chaque pas de la foi dans la parfaite volonté de Dieu. Mais bien-aimés, il n'y a eu qu'un seul, c'est-à-dire celui qui lui-même était parfait, qui en tout temps et à chaque heure était dans la parfaite volonté de Dieu. Il faisait en tout temps ce qui était agréable au Père. Nous, comme des gens inadéquats, nous serons ici et là, parfois dans la volonté de Dieu permise. Mais malgré tout, notre cœur loue et exalte. Est-ce que notre volonté admise, permise, surpassera et l'emportera-t-elle sur la volonté parfaite de Dieu? Jamais, jamais. C'est pas possible. La résolution, le but de notre Dieu demeure. Et sa volonté sera faite telle qu'elle est faite au ciel. Elle sera faite aussi sur terre, dans notre vie. Alléluia. Loué et exalté soit son saint nom. Si aujourd'hui, nous regardons en arrière, combien d'années es-tu, toi et moi? As-tu vécu sans considérer la nouvelle époque? Combien d'années tu as été dans la volonté, avons-nous été dans la volonté permise de Dieu, chacun dans son église, dans sa dénomination et partout d'où nous venions. Mais ensuite, cela a plu à Dieu de nous révéler sa volonté et alors nous avons pu discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Et maintenant, le temps arrive justement où l'Église épouse du Seigneur est apportée en accord avec tout le témoignage entier des Saintes Écritures dans cette bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu est introduite. Pas par des résolutions ou bien propres efforts, mais par un cœur croyant et un esprit bien disposé à suivre, pour suivre le Seigneur sur ses voies et sur tout son chemin. Est-ce que la volonté de Dieu ne nous a-t-elle pas été révélée pas à pas, peu à peu, peu à peu, pas à pas? Est-ce que nous ne sommes pas passés de clarté en clarté et de connaissance en connaissance? Encore, nous n'avons pas encore atteint le but. Et Paul écrit aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et je ne me considère pas comme déjà étant parfait. Quelle constatation humble, lui, un homme de Dieu de cette envergure, qu'est-ce que nous devrions dire, nous, qui tous les jours, à chaque heure, sont dépendants de la grâce de Dieu et de son secours. Mais nous pouvons le dire ouvertement. La grâce et la miséricorde de Dieu, nous l'avons reçue. Loué soit le nom du Seigneur. Et en tout ce que le Seigneur a déjà fait en nous, nous pouvons, n'est-ce pas, mesurer à tel point est grand son amour et combien d'efforts jusqu'à maintenant il a déployé et continuera encore à nous accorder. Il est écrit encore ici, citation, auprès de Dieu, rien ne va de travers. Il sait exactement quand est-ce que... Oui, il sait exactement quelle heure il est. Rien ne va de travers. Et tout ce qui arrive se passe comme ça doit arriver. C'est ainsi en toutes choses. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui va de travers. Mais lui, il sait que c'est juste et que ça doit être ainsi. Et là, nous ne pouvons même pas demander pourquoi est-ce que cela doit être ainsi. Qui va nous donner une réponse à cette question? Alors nous pourrions, avec Dieu, commencer déjà depuis le paradis et demander, mais pourquoi est-ce que la transgression a dû venir arriver? Pourquoi est-ce que pourquoi la séparation? Pourquoi la mort? Si nous voulions commencer avec le mot « pourquoi ?» Alors, nous n'allons plus jamais finir nos phrases, nos questions. Non, nous sommes de cette pleine conviction que tout se déroule correctement et à la fin des jours, cela sera manifesté que Dieu avait ses voix avec son peuple et que l'horloge sonnait correctement et que le rythme était toujours juste. Nous l'avons lu ici et ce passage se tient justement directement derrière cette déclaration où il est parlé de la volonté de Dieu qui est permise. Je vous lis les dernières 6 phrases ensemble. Si nous faisons quelque chose dans la volonté permise de Dieu, il le permettra et même si nous agissons dans sa volonté permise, bien que ce ne soit pas juste, il laissera toujours sa volonté permise servir à glorifier sa volonté parfaite. Auprès de Dieu, rien ne va de travers. Il sait exactement quelle heure il est ce soir et que rien ne va de travers. Chaque seconde et minute passe comme il le faut. C'est comme ça en toute chose. Oui, peut-être quelqu'un dirait, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en toute chose? Oui, en toute chose, ça veut dire en toute chose. Et si nous voulons avoir la bonne signification de cette expression, ça veut dire que rien n'a été exclu de tout ce qui s'est passé. C'est ainsi que tout se déroule correctement auprès de Dieu et avec Dieu. Tout s'est déroulé correctement alors que Ève prêtait l'oreille à ce qui lui était dit. Alors que Adam prêtait l'oreille à ce qui lui était dit. Tout se déroulait correctement. Vous direz, mais est-ce que c'est possible que tout, que rien ne soit allé de travers? Et là, frère Branham parle, il y a une expression qu'on utilise, l'explication lapidaire, donc en allemand, en français, succinct, donc bref, court, l'explication bref. Dieu avait des attributs en lui, il était père, il était créateur, il était guérisseur, il était sauveur, et etc., etc. Et frère Branham le dit, Dieu n'aurait jamais pu manifester ses attributs qui étaient en lui si cette histoire ne s'était pas déroulée avant. Donc, tout auprès de Dieu se déroule correctement. Comme de l'or précieuse et exacte. On aurait pu dire, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Ève, qu'est-ce que tu as fait? Quand je vais vous rencontrer, je vais vous poser la question. Oublions tout cela. Les saints écoutiers disent que la mort par un seul homme est venue sur tous. Ainsi, la grâce, le don de la grâce de Dieu et la vie éternelle par un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur tous ceux qui croient. Donc, Dieu, en ce qui concerne tout ce qui était permis, en ce qui concerne tout ce qui était permis, il a de nouveau introduit dans son plan parfait et ainsi, la chose permise aboutit et se termine dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu était qu'il puisse avoir des fils et des filles dans son royaume qui vivront éternellement avec lui et seront avec lui. Et c'est par Golgotha que cette volonté parfaite de Dieu a été révélée, a été manifestée pour tous ceux qui sont déterminés à voir la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devrions aujourd'hui encore nous retenir à ce qui était permis si nous pouvons observer que tout ce qui était permis par tout l'aps, par tout l'époque de l'Ancien Testament a abouti dans la volonté parfaite de Dieu et que maintenant nous nous concentrons directement à la volonté éternelle parfaite de Dieu qui en Jésus-Christ, notre Seigneur, a été manifestée. Oui ou bien non? Et c'est en cela que nous avons maintenant notre part. Ici, il est écrit encore, la parole Église, le mot Église veut dire déjà en soi-même les appeler à sortir. Les appeler à sortir. Ceux qui sont sortis, l'Église. Sortez du milieu d'eux, vous mon peuple. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez, ordonne le Seigneur, et ne touchez à rien d'impur. Et je ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. L'Église de Dieu est sortie du monde, sortie du chaos du monde, de la confusion du monde, elle a été appelée à sortir. Et vous n'appartenez plus au monde. C'est ainsi, tel qu'il n'y a pas longtemps, j'essayais ce soir-là de vous le dire. Si vous savez que vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit, alors vous savez que vous avez maintenant en vous l'assurance, le gage de votre rédemption éternelle. Alors, vous avez déjà été vivifié, déjà rendu vivant. Nous sommes ressuscités avec lui et en Christ Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Vous appartenez plus au monde. Si vous aimez le monde et encore avez des penchants, ressentez des penchants pour les choses du monde et attirez aux choses du monde, ça veut dire que l'amour du Père n'est pas en vous. Nous sommes délivrés du monde, affranchis du monde. Il n'y a plus de désir après le monde en nous existant. Il n'y en a plus. Nous venons de le lire ici dans la brochure et l'avons entendu. Ici, c'était le premier passage qui nous rappelle la Pentecôte. Comme nous l'avons clairement entendu, dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu et le peuple de Dieu ont apporté des sacrifices, mais c'était des animaux dont le sang a été répandu et le péché ne pouvait pas être pardonné. Il a été que couvert. Et la vie du sacrifice ne pouvait pas revenir sur celui qui l'apportait. Mais maintenant, Christ, l'agneau de Dieu, s'est apporté lui-même en tant qu'un sacrifice saint, parfait, sans tâche, à Dieu, pour nous racheter et pour nous apporter le pardon. Et celui qui doute à ça et qui remet en question le pardon d'un enfant de Dieu se rend coupable au sang et au corps de Jésus-Christ. Car le corps de Jésus-Christ jusqu'au dernier membre est sous le sang de l'agneau. Et chaque membre du corps de Christ est irréprochable devant la face de Dieu. Aucune accusation, aucune condamnation. Nous devons, une fois pour toutes, nous représenter devant les yeux la signification de Golgotha, la signification, et dans la foi de notre cœur, le recevoir. La recevoir. Ici, il nous a été dit, quand le Saint-Esprit descend, comme j'essayais de le dire comme introduction, parlant de quand il descend et qu'il reste. Et nous ne pouvons pas nous référer au passé en voulant aller de l'avant et vouloir aller de l'avant. Ce qui s'est passé est passé. Nous pouvons que nous occuper de ce qui est présent. Et nous voyons que comme en Christ, la parole de la promesse est devenue chair. C'est ainsi qu'à la fin des jours, dans l'épouse, comme dans l'époux, la parole de la promesse divine deviendra chair et telle que l'Esprit vient sur lui. C'est ainsi que l'Esprit doit venir sur toute l'Église. Et la frère Branham dit dans la prédication, the token, donc en allemand, en français, le signe, en allemand, das Zeichen, la vie du Fils de Dieu, le jour de la Pentecôte est revenu sur tous ceux qui, par le sang de l'agneau, ont été rachetés, sont rachetés. Mais bien aimés, ça, c'était la réponse de Dieu. Nous venons au Seigneur, il nous accueille. Mais ensuite, nous avons besoin de cette réponse divine. Jésus disait, il nous appartient d'accomplir toute justice, car Jean ne voulait pas le baptiser. Et quand il fut baptisé, le ciel s'est ouvert sur lui. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais bien-aimé, sur nous, dans ces jours, pendant ces jours, un ciel doit s'ouvrir et le Saint-Esprit doit se répandre et descendre sur le troupeau racheté par le sang. Ce ne sont pas nos mérites, mais cela nous a été promis par Dieu. Car c'est ainsi que c'est écrit. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, je n'appartiens pas à ceux qui d'eux-mêmes sonnent la trompette, ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Mais pendant toute cette semaine, ces jours-là, étaient lourds dans mon cœur. Je me disais, je ne vais ni manger ni boire. Je veux que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et je me suis résolu de ne pas prêcher, mais de faire ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. Quand est-ce que Pierre a prêché? C'est après l'effusion du Saint-Esprit. Pas avant, mais après. Moi, je prêche avant. Qui de nous peut aujourd'hui croire que Dieu peut accorder la Pentecôte? La Pentecôte, si d'un commun accord dans la prière devant Dieu, nous persévérons, nous restons. J'ai dit au Seigneur, comment est-ce que je peux prêcher la Pentecôte et puis après nous allons à la maison sans que personne ait reçu l'expérience du baptême Saint-Esprit qui a été prêché dans la prédication et qui a été promis à l'Église? On ne peut pas faire que prêcher ces choses. Jean vit l'Esprit descendre et sur Jésus et il est celui qui baptise d'esprit et de feu. Jean disait, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui baptise d'esprit et de feu. Si tout ce qui se tient en obstacle pour nous, ce qui nous retient, si nous pouvons le mettre de côté et dans la foi parfaite, dans toute la foi, pouvons remercier le Seigneur et vraiment prier et pas seulement supplier, mais avec, lié avec une action de grâce sincère et profonde, laisser savoir au Seigneur que nous n'avons pas seulement écouté sa parole, mais que de tout notre cœur, nous la croyons. Pas seulement prier et supplier, mais apporter une louange et une action de grâce. Laissez-moi vous dire cela. Je relis ce que Frère Branham a dit ici, l'embrochure. Laissez-moi vous dire ce que j'essaie de vous dire. Un soir, si vous savez que vous avez expérimenté le baptême de cet esprit, alors vous savez que vous avez en vous maintenant l'assurance, le gage de votre rédemption éternelle. Si vous savez, pas si vous pensez, pas si vous acceptez, mais si vraiment vous avez fait l'expérience, si vous portez cela en vous, si vous possédez cela, si vraiment vous le savez, pas le penser, mais le savez, alors vous avez été déjà vivifié, rendu vivant avec Christ. Est-ce que cela est encore en nous une espérance ou bien est-ce que l'espérance est déjà devenue une réalité? Mais bien aimé, ça ne suffit pas seulement de parler de la dernière parole de Dieu, le dernier message de Dieu et d'observer, de parler des vérités bibliques et d'en parler. Pierre n'a pas prêché sur la Pentecôte. Et même alors qu'il était allé dans la maison de Corneille, il était encore au commencement de son exposé. Il n'était même pas venu jusqu'à la Pentecôte. Et les Écritures disent que le Saint-Esprit s'est répandu sur tous ceux qui étaient rassemblés là-bas. Qu'est-ce que c'était? Ils avaient faim et soif, rassemblés devant la face de Dieu. Ils reconnaissaient tout de suite qu'ils avaient besoin de Dieu. Ce besoin était ardent et qu'ils avaient besoin de cette puissance de l'Esprit qui vivifie pour que ce corps mortel puisse être transformé et changé en corps de résurrection lors du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'est répandu sur tous. Mais parce que nous avons fait plusieurs expériences, et peut-être que nous disons, oui, mais si cela, les choses, si c'est pour être comme celui-ci et celui-là, alors je ne le veux pas. Je ne veux pas. Non, laissons toutes ces pensées de côté. Elles sont pour nous que un obstacle. Concentrons-nous. Ne regardons pas aux hommes. Concentrons-nous à la parfaite volonté de Dieu. Peut-être qu'aussi en ce qui concerne cela, nous sommes allés dans la volonté permise de Dieu et jusqu'à maintenant, par sa grâce et sa bonté, il nous a apporté. Mais aujourd'hui, il veut nous dire, je veux vous conduire, vous faire entrer dans ma volonté parfaite. Et qu'est-ce qu'il a dit autrefois? Je suis venu pour que vous ayez la vie et la voir en abondance. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit, du Saint-Esprit et de feu. Dieu veut le faire. Et ça, c'est maintenant le meilleur temps qui, depuis les jours des apôtres, pour une effusion du Saint-Esprit, c'est maintenant. Car maintenant, à la fin des jours, de nouveau, la pure parole, la semence divine a été ensemencée dans le cœur des croyants. Entre-temps, par des siècles passés, et particulièrement depuis le changement de siècle, l'Esprit de Dieu est tombé partout, s'est répandu partout. Et je ne suis pas ici aujourd'hui pour critiquer, mais au commencement, tout était glorieux. Il n'y avait pas de classement. Il n'y avait personne qui voulait se faire voir. Là, c'était des enfants de Dieu qui se rassemblaient sincèrement. Et chacun servait avec le don qu'il avait reçu de Dieu. Et vous savez, j'ai voyagé beaucoup dans ce monde. Et il y avait en Angleterre deux frères, les frères Jeffrey, que Dieu d'une manière particulière a utilisé après Wigglesworth, et frère Branham, les mentionnant aussi dans une prédication. Et alors que j'avais eu l'occasion dans ces églises là-bas de prêcher en Angleterre, le président est venu et voilà, il était exactement habillé comme tout ce que portent tous les prêtres, avec le col retourné comme un dignitaire religieux, comme tous les autres le font, comme un prêtre. Et je pensais à moi-même. Mais si ces hommes de Dieu que le Seigneur au commencement utilisait pour envoyer un réveil voyaient aujourd'hui ce qui se passe, ils se retourneraient dans leur tombe. Tous ont copié ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et ça, j'ai essayé de le dire tout à l'heure déjà. Je l'ai touché rapidement tout à l'heure. Nous En tant que l'Église du Dieu vivant, dans ces jours, nous ne sommes pas là pour copier ceux qui sont restés avec un réveil d'une époque et pour les imiter. Non. Nous sommes là pour marcher tout le chemin de Dieu jusqu'à la fin. Et si nous étions bombardés d'œufs pourris comme les grands hommes de Dieu, je l'accepterais bien. Si seulement Dieu pouvait être parmi nous et que sa puissance se manifestait, alors que tout cela puisse nous arriver, je l'accepterais. Oui ou non? Mais nous devons être prêts pour tout. Mais en tant que première chose, nous devons être prêts à croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Comme déjà dit, pour demain, je me suis résolu de ne pas prêcher. J'ai simplement pensé, nous allons nous rassembler. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais nous venons dans la foi, ensemble, nous réunir. Dans ces deux jours qui arrivent, quelque chose doit se passer. Nous devons avoir une rencontre avec Dieu. Nous n'allons pas frapper des chaises. Nous n'allons pas faire du remue-ménage. Mais dans la foi, nous allons nous approcher de Dieu et dire, Seigneur, nous avons cru ta parole, nous l'avons reçue en nous, que tu puisses répandre ta puissance qui vivifie, la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse se répandre sur nous, telle qu'autrefois le jour de la Pentecôte. Combien de vous, de nous, voit la nécessité pour avoir une telle expérience? Nous sommes tous parmi nous et personne ne voit qui lève les mains ou pas. Alors, vous pouvez le faire. Tous nous croyons. Merci. Tous, nous le croyons. Et Dieu a vu toutes vos mains. Oui, je vous dis, c'est nécessaire. Je vous dis la vérité. Si nous n'avons pas d'huile, nous ne pourrons pas entrer au festin des noces quand le Seigneur reviendra. Même si nous sommes des vierges pures, sages, il faut que la puissance de Dieu soit en nous pour que nos corps mortels soient transformés par l'Esprit qui habite en nous. Car il est écrit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Mais il doit habiter en nous. Et pour pouvoir habiter, il doit faire sa demeure en nous, en venant sur nous, se reposer sur nous. Il doit pouvoir se reposer, rester pour que la puissance de Dieu soit en nous. Le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de nous devenir des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, par la nouvelle naissance. Et c'est pour cette raison que notre Sauveur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il n'a pas dit jusqu'à ce que vous soyez devenus croyants, jusqu'à ce que vous ayez cru, non. Il n'a pas dit non plus jusqu'à ce que vous soyez devenus enfants de Dieu, non. Non, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce revêtement, nous l'avons besoin tous. Et c'est très nécessaire, très pressant. Et le Seigneur veut nous l'accorder. Le ciel est déjà ouvert. Nous n'avons plus besoin de prier pour qu'il s'ouvre, Le voile s'est déchiré. Le chemin est inauguré, est libre. Dieu est réconcilié avec l'humanité. A été réconcilié. Nos fautes ont été pardonnées. Nous sommes l'appartenance de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous voulons prendre part à la première résurrection. Nous voulons appartenir à l'Église. Épouse, nous voulons prendre part au festin des noces de l'agneau, être là-bas, au festin des noces. Et pour cela, il est nécessaire que nous puissions recevoir cette puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte est la meilleure occasion pour cela. Ne vous inquiétez de rien. Croyez seulement. Croyez seulement. Et cela aura lieu. Nous n'avons même pas besoin de rien. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de nous-mêmes. Le Saint-Esprit produira tout en nous. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne m'inquiète pas non plus. Je ne m'inquiète pas. J'ai fait que dire au Seigneur, mais je vais me garder de lui décrire, de lui prescrire ce qu'il doit faire, de lui dicter de ce qu'il doit faire. Non, je peux lui demander tout, particulièrement quand il s'agit de l'accomplissement d'une promesse qu'il a donnée. Mais nous restons ouverts devant sa face et nous ferons ce qui nous conduira à faire. Et même si dans la prière, je dis, Seigneur, je ne suis pas prêt à prêcher, je veux que le Saint-Esprit se répande. Alors je dois toujours encore dire, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Et c'est ainsi que nous venons avec un cœur ouvert, sans fanatisme. Nous venons devant la face de notre Dieu. Et je suis convaincu que il nous l'accordera richement. Comme parfois je l'ai dit, je veux tous vous revoir auprès du Seigneur. Ensemble, nous voulons prendre part au souper du Seigneur dans le royaume de son Père, avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a déjà appelé les prophètes des dieux, mais à eux, la parole de Dieu ne s'est pas seulement adressée, mais l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Et par l'Esprit de Dieu, ils ont reçu l'inspiration et la révélation. Les deux vont ensemble. La parole de Dieu s'adresse à nous et l'Esprit de Dieu vient sur nous. Oh, si nous pouvions croire de notre cœur et être détendus, complètement détendus dans la présence du Seigneur. Il n'y a même pas d'effort, de bataille, pas de lutte, mais une confiance totale à notre Seigneur. Seigneur, tu es celui qui baptise d'esprit et de feu. Sur toi, le Fils de Dieu, l'Esprit est vain. L'Esprit vain pour que, ensuite, avec le même esprit, tu puisses baptiser tous les fils et les filles de Dieu. La chair, et donc chair de sa chair, eau de ses eaux, esprit de son esprit, parole de sa parole, comme souvent nous l'avons entendu. Cela, il y aura une parole épouse, une épouse parole, pas une épouse, donc pas la lettre, mais une épouse parole. Et notre Seigneur a dit, les paroles que je vous ai adressées, elles sont esprit et elles sont vie. Donc, pas la lettre, pas une lettre, mais esprit de Dieu, vie divine. La vie de Dieu lui-même en ceux qui ont reçu la parole. Est-ce que vous pouvez le croire? Avec Dieu, toutes choses sont possibles. À lui, notre Seigneur et Rédempteur et Sauveur, qui pour nous les racheter, a tout subi. Gethsémané et Golgotha, lui qui mourut pour nous. Il est ressuscité pour notre justification. Il est monté au ciel et il a répandu l'Esprit. Aujourd'hui, il est le même tel qu'il était hier. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il fera la même chose. Tout ce que Dieu a permis ne n'empêchera pas que sa volonté parfaite en toi et en moi, en nous tous, dans son Église, soit faite et arrive, s'accomplit, soit faite. Et si de tout notre cœur, nous pouvions croire de cette manière, avec cette même confiance. Donc, maintenant, je sauterai d'un seul saut de cette chair. Je suis convaincu que le conseil éternel de notre Dieu s'accomplira et s'achèvera tel qu'il l'a conçu avant même la fondation du monde. Et donc, les circonstances ne pourront rien changer à ça. Dieu est souverain sur toutes choses. Il faut. Et cela va arriver. Il faut que cela arrive, cela va arriver. Et que cela ne nous élève, ne nous fait pas sortir de nos limites humaines. Est-ce que cela ne nous ravit pas dans les lieux célestes? Est-ce que cela ne nous relie pas à Dieu? Est-ce que dans notre cœur, ça ne nous réjouit pas et accorde pas de l'assurance que nous puissions dire, Seigneur, nous pouvons te faire entièrement confiance. Tu te tiens sur ce que tu as dit. Nous persévérons jusqu'à ce que tu l'accomplisses. Et comme Marie disait autrefois, nous le disons, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose. Seigneur, fais à moi, comme tu l'as dit, à moi, qu'il me soit fait, selon ta sainte et précieuse parole, que à tous, une insomnie soit accordée. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, une nuit sans sommeil, sans dormir, à tel point que nous recevions une telle faim et une telle soif envers Dieu. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Dieu rassasiera notre faim. Loué et exalté soit son saint nom. Amen. Matthieu 5, verset 6. Lèvons-nous pour la prière. Crois seulement, crois seulement. Jésus est ici. Tout est possible. Parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible. Parce que Jésus est ici. Ensemble, nous voulons remercier le Seigneur et lui apporter l'adoration et l'action de grâce dans la foi de ce qu'il fera, ce qu'il a promis. Alléluia! Alléluia! Dieu fidèle, de tout mon cœur, je te remercie ce soir. Ton horloge marche à la seconde. Tout fonctionne correctement tel que tu l'as résolu. Seigneur fidèle, révèle dans ces jours ta grande puissance et gloire pour que nous puissions expérimenter et vivre et recevoir que le ciel est ouvert et que le Saint-Esprit se répand. Seigneur fidèle, nous te remercions. Tu répands et es répandu, car tu es celui qui baptise d'esprit et de feu. Et tu es parmi nous. Maintenant, tu passes par nos rangs. Alléluia. 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 Gloire, honneur et adoration soit au Seigneur qui marche parmi les sept chandeliers d'or et pour confirmer sa parole et répandre son esprit sur toute chair et ce soir sur nous. Alléluia. Alléluia. Loué et honneur et louange, honneur et te soit apporté. Je te remercie pour ta présence perceptible. Elle nous est précieuse. Elle est pleine d'amour. Elle répand la paix, comme si tu voudrais nous dire que la paix soit avec vous, comme autrefois tu l'as fait. Seigneur fidèle, accorde-nous cet accord parfait, total, quand nous prions, que nous puissions tous prier, quand nous rendons grâce, que nous puissions tous rendre grâce, quand nous ouvrons la bouche, que tous puissions ouvrir la bouche, quand nous chantons, que tous chantent. Seigneur, accorde-nous ce commun accord, cette parfaite harmonie, parfaite union. Accorde-nous tous d'être sous la directe conduite de ton esprit. Accorde-nous le calme dans ta présence, devant ta face. Je te remercie de ce que nous avons cette comparaison. Ton esprit se mouvait au commencement, couvant au-dessus des eaux, en allemand. Couvant au-dessus des eaux. La chaleur a été produite pour faire apparaître la vie. Dès que la parole parlée serait apportée, ô Seigneur, de ton esprit qui se meut au-dessus de nous, de la chaleur est émise, du feu vient sur nous et tu baptises d'esprit et de feu. Je te remercie pour faire apparaître la vie divine, les promesses divines qui ont été accordées par ta parole pour qu'elles trouvent leur accomplissement. Seigneur, agrée-nous tous, accueille-nous tous, accorde-nous ensemble, l'un avec l'autre, avec ta parole, avec ton esprit, et que nous puissions expérimenter, ressentir ta chaleur. La chaleur, comme une poule réchauffe les œufs pour que la vie sorte. Je te remercie de ce que, d'une manière si merveilleuse, jusqu'à aujourd'hui, tu nous as conduits d'une manière merveilleuse, sans prétendre et sans revendiquer en tout, avoir fait la volonté parfaite de Dieu. Mais tu nous as fait grâce. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Si nous sommes en train d'être placés dans ta parfaite volonté, bonne, agréable et parfaite, nous sommes en train d'être conduits par toi dans ce qui est bon, parfait et agréable à tes yeux, ta volonté parfaite. Seigneur, bénis ton peuple d'une manière très particulière, maintenant, à la fin, comme tu l'as fait au commencement. Tu es proche de nous. Alléluia. Alléluia. Loué. Louange. Gloire et adoration te soient apportées. Alléluia. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Ô Seigneur. Ô Dieu. Ô Dieu. Seigneur. Que nous puissions appartenir à ceux qui croient chaque parole, chaque promesse, et qui la reçoivent. Et que rien de nous manque. Ô Dieu, regarde que nos frères sont venus de loin, et nos sœurs, comme autrefois, à Jérusalem, ils étaient venus de Cappadocienne et de 18 différents pays. Seigneur, nous sommes ici de plusieurs pays rassemblés, pas pour écouter une prédication sur la Pentecôte, mais pour expérimenter l'effusion de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie et je te loue. Alléluia. Honneur et gloire, adoration te soit apportée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.